Donc je vais juste le lire, vous pouvez le suivre. Ainsi, je vous donne mon opinion dans cette affaire. C'est Paul qui parle, hein, c'est pas moi. Il est bon pour vous de persévérer. Alors quoi de mieux au début d'une nouvelle année ? On va persévérer. Je sais que Myriam, elle a dû reprendre les cours et c'était dur, mais il faut persévérer. Elle sait qu'il y a une année devant elle. Les prochaines vacances, c'est dans maintenant 5 semaines. Ben, il faut persévérer, il faut y aller. Ben, pour nous, c'est pareil. Il est bon pour vous de persévérer. Vous qui, l'année dernière, avez été les premiers non seulement à agir, mais encore à décider d'agir. N'est-ce pas beau ? L'année dernière, on a repris un nouveau chapitre dans cette église. Et je dis nous, c'est vous et nous, c'est pas seulement nous. C'est nous tous ensemble en tant que famille de Wavre. Voilà, nous avons l'année dernière été les premiers non seulement à agir, mais encore à décider d'agir. Tout ce qu'on a pu mettre en place durant cette année, on l'a vu la semaine dernière, c'est toutes des petites gouttes d'eau qui vont faire devenir une plus grosse rivière. Et donc, il dit ici, mais encore, il faut maintenant donc achever de réaliser cette œuvre. On n'en a pas fini. On n'a pas fini au bout d'une année, on se dit, ben tiens, voilà, tout va bien. Non, il faut continuer, il faut persévérer. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à le décider, et cela selon vos moyens. Voilà, on a décidé de faire certaines choses, on a décidé qu'on allait avoir une vision 50. Ça nous motive à se dire, ben, il faut que les chaises se remplissent, on a encore de la place. On a décidé qu'il y avait des groupes contacts qui allaient se mettre en place. Gloire à Dieu pour les trois, mais voilà, il faut encore d'autres. Il y en a un autre qui s'ouvre en octobre ici sur Wavre, il y en aura d'autres à d'autres endroits. Et vous savez, même une chose incroyable, c'est que quelqu'un m'a téléphoné l'autre jour, suite à une conversation que Jean-Luc a eue avec une dame qui habite à Douai. Elle m'appelle, elle me dit, mais c'est quoi ces groupes contacts ? Je vais en faire un à Douai. Donc vous voyez, ça se multiplie. Ça ne sera pas pour notre église, mais c'est pour l'église de Dieu. C'est ça qui est important. Donc voilà, on a décidé certaines choses. Et selon nos moyens, on va continuer. Car si l'on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce qu'on n'a pas. Alors réjouissez-vous, vous avez des dons et c'est ça que Dieu y voit. Il ne voit pas ce que vous n'avez pas, mais il voit ce que vous avez. Il voit ce que nous, on a à mettre à sa disposition. Et c'est ça que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que Dieu a mis des dons en chacun d'entre nous et on a des dons divergents. On est vraiment différents les uns des autres et aucun ne doit se sentir moins ou plus parce qu'on a tous notre importance. Hein, vu le corps de Christ, le corps humain a besoin de toutes ces petites parcelles dans notre être humain. Mais nous, c'est pareil, on a besoin les uns des autres. On a besoin des petits-enfants, on a besoin des âgés, des personnes âgées, on a besoin de chacun d'entre nous. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ce matin de vraiment mettre toute votre bonne volonté, de persévérer, de mettre au service de l'Église vos dons, vos petits moments où vous pouvez prier pour l'Église, vous pouvez donner, vous pouvez faire plein de petites choses. Et c'est ça qui va faire la grandeur de l'Église. C'est ça qui va faire vivre la famille de Wavre. Et j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes riche ce matin ? Non ? C'est bien, tu n'as rien. Moi, je suis d'accord avec toi. On n'a pas besoin d'être riche d'argent. Mais je vais vous donner le secret de la parole de Dieu. On va voir la prochaine vidéo, la prochaine image. Bonne révélation. Vous êtes riche en tout. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Vous, non ? Alors il faut le croire parce qu'il y a une vérité dans ça. Vous êtes riche en tout, mais non pas d'argent. Là, il parle de la foi. Nous avons tous de la foi. Et des fois, il dit que la foi, c'est comme un grain de moutarde. Hein. On n'a pas besoin d'une énorme montagne, mais en exerçant la foi, elle grandit. Le don de la parole. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui l'ont plus que d'autres, je suis d'accord. Mais on peut tous donner une bonne parole. On peut tous dire un bonjour à quelqu'un. Et ça fait du bien. Je crois qu'Odette est d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Quand on dit bonjour à quelqu'un, ça peut faire du bien. La connaissance. Alors notre connaissance, elle est différente les uns des autres. Hein. Moi, j'ai une petite connaissance, j'ai un petit cerveau. Je suis peut-être pratique, mais j'ai peut-être moins de connaissances. J'en connais d'autres qui ont une plus grande connaissance, qui sont moins pratiques. Mais voilà, moi, je ne la connais pas grand-chose dans le football. Le zèle sans limite, ça il ne faut pas le limiter le zèle. Le zèle de faire les choses pour Dieu, ça a ses récompenses, ça a sa richesse. Et l'amour bien sûr. Et ça c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que vous êtes riches en tout. Parce que Dieu a mis la foi dans vos cœurs, il a mis le don de la parole, la lecture de la Bible, c'est une richesse, la connaissance, le zèle de venir servir le Seigneur et l'amour. Et donc que cette année, on puisse être enrichi par la parole de Dieu et la mettre en pratique au milieu de nous. Et qu'on puisse vraiment vivre cette famille de Dieu où on sait se soutenir les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. Et c'est ça notre richesse. Et j'aimerais aussi vous dire merci pour les offrandes que vous faites, parce que ça fait partie aussi du service de l'Église. Et j'en profite de remercier chacun pour votre générosité, pour les deux boîtes qui sont derrière, pour tout ce que vous donnez, même les choses qu'on ne connaît pas. Mais merci pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, c'est l'homme qui suit sa femme. Voilà, et l'autre jour, il y avait quelqu'un chez nous, et cette personne parlait de toutes ses misères, toutes ses difficultés, et c'est vrai, quelquefois dans la vie, il y a des difficultés. Et elle disait à un moment, « Ah, tel et tel, j'espère qu'il va tomber malade. » Oh, touchons du bois. Touchez le bois. Touchez le bois. Et toucher le bois, je pense toucher du bois, on a entendu. Hein? Ah, heureusement, hein, devant moi. Mais quand on dit ça, ça vient d'où toute cette expression? Ça vient de la superstition. Ça vient de la superstition. J'ai regardé sur Internet ce matin et ça parlait de... Moi, je pensais que ça venait de la croix, qu'une idée chrétienne, qu'on touche le bois. Hein? Mais apparemment, c'est même avant ça. Même les Égyptiens, même avant la croix et l'époque chrétienne, c'était même dans les religions perses et même les Égyptiens. Ils croyaient qu'en touchant le bois, qu'on dominait la force du feu, du dieu de feu. Et donc, et c'est encore plus profonde cette idée que le bois de la croix. Et donc, voilà, est-ce qu'on va toucher du bois ce matin? Voilà, ça va. Oh, est-ce qu'on va faire appel au dieu de feu? Mais pas exactement, pas exactement. Mais ce matin, j'aimerais quand même parler d'un morceau de bois. Hein, d'un morceau de bois qui a tout changé et un morceau de bois qui a tout transformé. C'est une réalité, une histoire dans l'Ancien Testament. Et donc, nous avons quelqu'un qui aime bien lire la parole au milieu de nous. Et donc, j'ai fait appel à Claude pour m'aider à lire le passage ce matin. Et donc, si tu veux venir devant, comme ça, on peut l'enregistrer. Et donc, l'histoire, on va lire ça ensemble ce matin, l'histoire se trouve en Exode. Et c'est le peuple de Dieu en route, ils font leur petit voyage, comme nous tous, hein, nous sommes en voyage. Et ils sont un exemple pour nous en voyage dans le monde. Et donc, voilà une petite histoire du peuple de Dieu en Exode, chapitre 15, versets 22 à 27.
Moïse fit partir d'Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau.
Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Hein? La parole de Dieu est la vérité. Et cette histoire, c'est une histoire vraie. Ça a eu lieu dans l'histoire. Si les gens n'ont jamais fait des vacances en Égypte, il y a le désert, il y a le Suez. Et c'est cette oasis. Hein, c'est une histoire de 2 oasis finalement, et ça se trouve dans le désert de Suez, qui est en Égypte, où on peut même visiter. C'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est comme nos histoires. Et d'un côté, quand on voit ce qui précède cette histoire, c'est super, parce que le peuple de Dieu, ils sont libérés d'Égypte, ils sont libérés de l'esclavage. Et ça, c'est comme nous, quand nous devenons chrétiens, nous sommes libérés de l'esclavage du péché et du monde. On est libérés. Et eux, ils avaient traversé la mer Rouge. Ça, c'est l'image de passer par le sang de Jésus, d'entrer dans une nouvelle vie. Ils sont entrés dans le pays des promesses. Et nous, nous entrons dans, par la foi dans le pays des promesses, toutes les promesses de Dieu. Et donc, c'était la victoire. Et on voit que Myriam, hein, verset 20 de chapitre 15, c'est super. Elle prend son tambourin et toutes les femmes autour d'elle commencent à danser. Ils font la fête. C'est vraiment la boîte de nuit dans le désert. On peut aussi trouver ça à Suez, hein. Il y a les gens qui dansent, alléluia, Dieu nous a donné la victoire, quelle belle vie, ça va être super maintenant. Et pour beaucoup de gens, ils pensent quelquefois, et c'est vrai, que quand nous rencontrons Christ, quand il nous libère d'Égypte, que c'est super, c'est la fête. Et c'est vrai, je ne veux pas voler votre fête. Mais après 3 jours, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec son tambourin. Hein. Parce qu'après 3 jours, 3 jours plus tard, après toutes ces danses et toute cette victoire, elle se trouve dans le désert. Dans le désert. Mais je peux vous dire que même si vous chantez bien, même si vous connaissez le salut, même si vous connaissez toute la victoire de Jésus-Christ, quand même dans nos vies, même nos vies chrétiennes, il y a les moments de désert. Et il faut être préparé pour ces moments de désert. Il faut être préparé pour ça. Ces moments de désert où, qu'est-ce qu'on va boire? Où je ne sens rien. J'ai plus cette effusion du Saint-Esprit dans mon cœur. C'est difficile. Et après 3 jours dans le désert, ils arrivent, ils ne trouvent pas d'eau. Et tout d'un coup, ils voient des palmiers, ils voient... Il faut imaginer le peuple, ils ont soif. Peut-être ils trouvent une église. Ah, église évangélique. La source, waouh. On va y aller, on va y aller. Où ils trouvent une communauté, où ils trouvent une famille, où ils trouvent une amitié. Ils disent, oh, peut-être ça va me satisfaire. Ils arrivent à Mara, et ça c'est tragique. Ils ne peuvent pas boire parce que c'est amer. Et vous savez, quelquefois la vie est amère. Et ce n'est pas juste une oasis, c'est nos cœurs. Qui quelquefois, c'est moins doux que ça doit être. Et j'imagine le peuple là, il voulait tellement boire, il voulait tellement avoir de la satisfaction. C'est comme nous, quelquefois, on aime tellement, on aimerait tellement avoir de la satisfaction dans nos relations, la satisfaction dans la vie. Mais le peuple ici, ils étaient déçus. Ils étaient vraiment déçus parce que là où ils pensaient étancher leur soif, ils ne pouvaient pas. Et cette déception est difficile. Quelquefois, il y a les gens qui sont vraiment déçus de l'Église parce qu'ils pensaient y trouver à boire et ils sont déçus parce que quelquefois, c'est très amer, ça laisse un goût amer. Et dans beaucoup de relations, quelquefois, on avait espéré trouver de l'amour avec tel et tel, mais bon, après, on est déçu. Mais même dans tous les domaines de la vie. Ah, moi je ne vais pas faire la politique quand même, mais si j'avais voté François Hollande, est-ce que maintenant, j'attendais, voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email le jour de son élection, il dit, maintenant, nous aurons, comme on dit, du taf, et voilà, ça va marcher, mais... Voilà, la courbe n'a pas été inversée. Et on voit que quelquefois les gens sont déçus. Ils sont déçus. Il y a une déception qui peut toucher nos cœurs. Même le peuple de Dieu, on peut être déçu. Qu'est-ce que je fais avec ma déception? Parce que vous savez, une déception, ça travaille à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais avec mes déceptions? Ça peut me ronger. Et quand on est déçu, on a un grand besoin, on a un besoin de blâmer quelqu'un. faut toujours blâmer. Je ne sais pas qui vous blâmez. Hein? Si on est marié, c'est facile. Je ne sais pas qui vous blâmez. Et après, on peut blâmer. C'est... Oh, et souvent, on peut blâmer celui qui a un peu plus d'autorité que nous. Oh, on va blâmer le chef, on va blâmer le prof, on va blâmer les parents, on va blâmer... Et on peut cultiver une culture de blâme. Et la dernière personne à blâmer, bien sûr, c'est soi-même. Mais quand même, même ça, ça peut arriver. Mais on voit que le peuple, ils ne pouvaient pas boire. Ils étaient déçus, ils avaient besoin de blâmer. Et donc là, pauvre Moïse, il se trouve dans la ligne de mire. Là. Il est le chef. Et il fait de son mieux, c'est pas lui qui a mis du sel dans l'oasis, hein. C'est pas sa faute. Hein. Et verset 24, le peuple murmura contre Moïse. Je pense en ce moment, quand je vois les médias, la France, on murmure contre des autorités en ce moment d'une manière incroyable. Bon, je pense qu'on a un moins bon que Moïse quand même, mais bon, quand même. C'est facile de murmurer. Bon, c'est à lui la faute de tout. Allez, on va éviter de se regarder, on va juste blâmer les autres. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mon mari, mon épouse, mon prof, blablabla. Peut-être. Mais on voit quelquefois ces murmures ont besoin de sortir. Mais est-ce qu'en murmurant, on trouve une solution? Je pense pas. En murmurant, on ne trouve pas une solution. Il n'y a que la rébellion, on casse tout. Mais les murmures ne changent rien. Et Moïse, il a commencé à faire quelque chose qui change tout. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Au secours, qu'est-ce que je vais faire? Mais au moins, il a cette ouverture à crier à l'Éternel. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez murmurer contre tout le monde. Mais attention, il ne faut pas murmurer contre Dieu. Ça, c'est très dangereux parce que vous fermez à clé le ciel si vous faites ça. C'est comme si vous fermez à clé la porte qui vous donne la seule solution. D'accord, vous pouvez murmurer contre tout le monde. Mais ne murmurez pas contre Dieu, parce que c'est lui qui donne la solution. Et c'est lui qui est bon, Dieu est bon. Ah, mais ma vie, et si Dieu était bon, pourquoi la souffrance? D'accord. Il y a des mystères, il y a des difficultés. Mais Dieu a créé un monde parfait et bon. Et l'homme a choisi le péché. L'homme a chuté. Et je ne pense pas qu'on peut trop blâmer Dieu. Il faut plutôt regarder à soi-même. Mais ne blâme pas Dieu, il faut plutôt crier à Dieu. Crier à Dieu comme Moïse. Crier à l'Éternel. Et si on mettait autant d'énergie à crier à l'Éternel que de murmurer, le monde serait transformé. Je dirais, si au lieu de murmurer tout le temps, on criait à l'Éternel, on commençait à prier, même pour notre pays, je dirais, la France a une capacité énorme pour la prière. Si on pouvait juste transformer nos murmures en prières et de crier à l'Éternel, on n'a pas besoin de dire qu'il n'y a que des évangéliques purs et durs qui peuvent prier. Moi, je dirais que chaque homme a cette capacité dans son cœur de prier. Même les athées prient. Ils ne savent pas que faire, mais voilà, je vais quand même prier. Chaque homme a cette capacité de prier. Qu'on commence à crier à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on crie à Dieu? Quelquefois, je dis, il faut vraiment quelquefois que les situations deviennent de pire en pire pour qu'on crie à Dieu. Et quand il crie à Dieu, il y a une solution. Et c'est la solution que je vais vous donner ce matin. La solution pour transformer l'amertume en douceur. La solution pour transformer les cœurs remplis de sel, un cœur rempli de douceur, un cœur de miel au lieu d'un cœur de sel. Hein? Moi, je veux un cœur de miel au lieu d'un cœur de sel. Et qu'est-ce que c'est la solution? C'est incroyable, C'est une histoire très prophétique qui voyait l'avenir. Bon, Dieu, il ne dit pas à Moïse, touchant du bois. Il ne dit pas ça, mais presque. Ce qu'il lui dit, il dit, l'Éternel, verset 25, lui indiqua un certain bois. Déjà dans le passé, là, il disait, voilà, il y a un certain bois que tu dois couper. Et la solution pour l'humanité, c'est de saisir ce bois. C'est de saisir la croix de Jésus-Christ. Là, on a des croix partout. Partout en France, on voit des croix. Mais est-ce qu'on a une croix dans la culture ou est-ce qu'on a vraiment une croix appliquée à notre cœur? Et c'est ça la question. Ce n'est pas juste avoir une croix autour du cou même, parce que ça fait joli, mais ce morceau de bois, ça doit être appliqué à notre cœur. Il montrait à Moïse un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Il y avait une action, et je pense que cette action de jeter le bois dans l'eau, c'est pour nous comme un acte de foi, de croire vraiment que Jésus-Christ est mort pour moi sur ce bois, qu'il a payé le prix pour mes péchés, qu'il a effacé mon passé, qu'il m'a touché, qu'il m'a aimé par cet acte, qu'il est ressuscité 3 jours après, qu'il a vaincu la mort, qu'il a brisé la malédiction du péché. Et ça peut tout transformer. Il faut commencer là. Le problème de l'homme, c'est le péché. Et la solution du péché, c'est ce morceau de bois, c'est la croix de Jésus-Christ crucifié. Il jeta ce morceau de bois dans l'eau et l'eau devint douce. Quel changement, quelle transformation. Et ça, c'est surnaturel. Moi, j'ai vu dans ma vie, vous avez aussi vu cela, les vies transformées. Les cœurs de ciel, de sel qui devient les cœurs du miel, de miel et du ciel même. D'être transformé, c'est possible d'être transformé en jetant, je dirais, en appliquant ce morceau de bois, la rédemption de Jésus dans notre cœur. Voilà, j'aimerais définir un petit peu plus ce morceau de bois. Peut-être en parler dans le Nouveau Testament, pour ceux qui veulent, et c'est dans le passage de Pierre, 1 Pierre, la lettre de 1 Pierre, première lettre de Pierre, et chapitre 2, et à partir de verset 23. L'apôtre Pierre qui parle de Jésus. Verset 23 de chapitre 2. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte. Non, ça c'est très pratique là. Ça c'était peut-être c'est un petit désert pour nous, non? Un petit moment de marat, d'amertume, qu'on est insulté. On est insulté dans la vie. Ça me rend amer un peu d'être insulté. Mais lui, il était insulté, mais ne rendait pas l'insulte. Après, il souffrait. Souffrant, ne faisait pas de menaces. Quand on souffre comme ça, Jésus-Christ qui a souffert plus que tout autre homme sur cette croix. Il connaît nos souffrances. Il a porté vraiment cette croix. Il a goûté la coupe de la souffrance. Il a bu jusqu'à la lie. Et ce n'était pas juste une souffrance physique, parce que les souffrances physiques, il y a toutes sortes. Mais c'était toute cette souffrance d'isolement, de séparation, de solitude, d'avoir un cœur brisé. Un cœur brisé. Et en souffrant, on est vulnérable. Quand nous souffrons, nous sommes tellement vulnérables. Mais lui, en souffrant, il ne faisait pas de menaces. Waouh! Il a brisé cette réaction naturelle de l'homme de murmurer. Et voilà, je souffre, ça m'a fait mal, allez, je vais blâmer. Non, il a dit non, il n'a pas fait de menaces. Il nous donne l'exemple parfait. Mais qu'est-ce qu'il faisait? mais il s'en remettait à celui qui juge justement. On peut se remettre entre les mains de notre bien-aimé qui est juste. Même si on subit les pires choses, on peut dire, mais Seigneur, je ne vais pas me rebeller, mais je vais me remettre entre tes mains. Et c'est ça ce que Jésus, il a dit, entre tes mains, je remets mon âme. Allez, c'est toi, Seigneur, qui connais tout. Et ça, c'est notre victoire, c'est la victoire de la foi, ça. Il faut beaucoup de foi pour remettre notre avenir, notre destinée à celui qui juge justement. Et il y aura un jour, peut-être ça sera bientôt, où toutes les choses vont être jugées justement avec celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Il n'y a pas de chichi avec lui, hein. Là il va dire, voilà, c'est comme ça, tac, la vérité. Et on peut se remettre notre âme entre les mains de celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Voilà, c'est là ce bois, prophétiquement coupé, je dirais pas Moïse, mais la réalité pour nous aujourd'hui. Ce bois qui nous libère de nos péchés, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dans la meurtrissure, vous a guéri. Il y a une guérison dans ce bois aussi. Dans ce morceau de bois, il y a la guérison pour nos âmes et pour nos corps. Il y a une puissance. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Encore, laisse-moi encore parler un petit peu de ce morceau de bois, de cette croix. En Colossiens, chapitre 2, et à partir du verset 14, il dit tout simplement, encore en parlant de ce que Jésus a fait sur la croix, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé, chapitre 2, verset 14, en Colossiens. Il a supprimé en le clouant à la croix. Et donc, cet acte rédigé contre nous, c'était le droit de la loi qui dit, toi, tu n'es pas un bon chrétien. Toi, tu n'as pas assez aimé. Toi, tu n'as pas assez prié. Toi, tu es nul. Toi, toutes ces accusations, ces condamnations qui viennent quotidiennement. Ah, toi, si tu es un bon chrétien, oh, ça, c'est pas un bon comportement pour un chrétien, quand même. Toutes ces accusations de l'ennemi. La loi. Mais Dieu a dit, c'est plus la loi, c'est la grâce. Il a effacé cet acte, cette condamnation, cette accusation, le doigt pointé contre nous. Il a supprimé en le clouant à la croix. Ce morceau de bois nous libère de toute condamnation de l'ennemi. Et après, il dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Et là encore, je vais dans des domaines surnaturels. Mais vous savez, nous avons des ennemis spirituels. Quelquefois, quand une déprime tombe sur vous, ou quand c'est dur, ou une colère monte, ou même une crainte, une phobie qui vous attaque, ce n'est pas juste psychologique. Il y a des mauvais esprits, il y a des pouvoirs, des principautés. Et notre lutte en tant que chrétien, c'est aussi une lutte spirituelle. Et la victoire se trouve aussi dans ce morceau de bois. La victoire contre l'ennemi, contre celui qui est contre nous, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lui, il a dépouillé tout ça, même en se réunissant en tant que chrétiens ce matin. Nous sommes en train de proclamer, même par la Sainte Cène, qui est l'incarnation de ce morceau de bois, nous sommes en train de proclamer qu'il a gagné la victoire contre ses forces spirituelles dans le ciel. le sang de Jésus-Christ a triomphé. Ce morceau de bois nous libère des griffes de Satan. Il est vaincu au nom de Jésus. Les puissances, les pouvoirs sont publiquement livrés en spectacle. Là, quand Jésus était publiquement crucifié, il a vaincu une fois pour toutes toute la puissance de l'ennemi. Et il nous libère. Prenons ce matin ce morceau de bois qui nous libère, qui nous transforme, qui rend tout ce qui est amer doux. Il change tout. Et après, voilà, il y a un contexte où ça marche bien. Il y a un contexte pour la foi. Il y a un contexte pour appliquer la réalité de la croix de notre vie. Et après, à partir de verset 26, en revenant en Exode, là, notre passage, le contexte pour appliquer ce morceau de bois. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu écoutes, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, c'est cette écoute, juste d'écouter, écouter la parole de Dieu, que ça pénètre. Pas toujours facile, c'est là aussi une lutte spirituelle, souvent. Il y a trop d'autres voix, trop d'autres bruits. Mais si tu écoutes, mais après il dit, il ne faut pas juste écouter. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu observes toutes ses prescriptions, vous voyez l'écoute et l'obéissance. Écouter, mais aussi faire. Écouter et faire. Et Dieu nous demande de faire une chose, peut-être deux choses. Il dit, voilà, je veux que vous m'aimiez. Allez, il faut aimer Dieu. Ça, c'est une chose. C'est l'apôtre Jean qui dit ça. Il dit, il n'y a pas des milliers de commandements maintenant. Il y a un seul commandement. Aimez Dieu, aimez Dieu. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça qu'on est réunis ce matin avec ces moments d'adoration pour adorer Dieu. Et je remercie tellement nos amis qui ont préparé cette adoration. Et ils ont passé des heures et des heures pour répéter ces chants. Mais ils ont fait ça pas pour eux-mêmes, pas pour faire un spectacle. C'est pour nous aider à remplir ce commandement tellement, tellement grandiose. Aimez Dieu, aimez Dieu. On peut le faire lundi, mardi, mercredi, on peut faire tout seul. Mais ensemble, le peuple de Dieu qui dit, nous on est venus ce matin pour aimer Dieu. Ça c'est une chose que Dieu veut qu'on fasse. Mais avec ça, bien sûr, et aimer votre prochain. On peut pas juste aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas le voisin qu'on voit. Et donc, c'est ce commandement, c'est d'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez, faire, obéir. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, on voit que quand il y a ce contexte de foi, d'obéissance, d'amour, aimez Dieu, aimez votre prochain. Il dit, voilà, dans ce contexte, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Et même avant les chrétiens, les juifs, ils avaient les noms pour Dieu. Et leur nom, c'était Yahweh, ça c'est le grand nom qui a été révélé à Moïse. Yahweh, hein, je suis celui qui suis. J'existe, je suis là, dans ce buisson ardent. Mais ils ajoutaient quelquefois des caractéristiques à ça. Et donc ici, ils ont Yahweh. Mais ils ont ajouté Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. C'était vraiment écrit. Écrit dans les textes les plus sûrs. Quelquefois, on veut connaître Dieu. Et on a des textes sacrés qui nous parlent de Dieu. Et on dit que Dieu est un Dieu qui guérit. Et après, quand Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ, quand Dieu est devenu abordable, quand il a pris la chair, qu'est-ce que Jésus faisait autour de lui? Qu'est-ce que Jésus faisait autour de lui? Il guérissait. Il faut. Est-ce qu'il y a un chapitre dans les évangiles où Jésus n'a pas guéri? Tout le temps, il est en train de guérir, de toucher les gens, de guérir les lépreux, de guérir les boiteux, d'ouvrir les yeux des aveugles. Et bien sûr, il y a des. On peut dire ça, c'est. Maintenant, c'est des guérisons spirituelles où on voit la lumière, on a la révélation, on est délivré du péché. Bien sûr, mais c'est aussi une réalité qui touche nos corps. Et Dieu est un Dieu qui nous guérit. Yahweh Rapha. Donc si vous êtes malade, vous savez, la maladie, c'est Mara. C'est une oasis d'amertume. Hein? C'est une oasis d'amertume. Mais ce morceau de bois, par ses meurtrissures, on peut être guéri. Et il peut nous guérir physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il est Yahweh Rapha. Et donc par la foi, saisissons aussi cette guérison dans nos vies ce matin. Saisissons la puissance d'un Dieu qui nous guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien sûr, moi je ne suis pas de ces personnes qui croient que si tu es malade, tu as péché ou tu as... Non. Quelquefois les gens les plus honnêtes tombent malades. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Hein. Moi, il y a un mystère derrière tout ça. Mais ce que je vous propose, au lieu d'analyser les causes, je veux vous proposer, saisissez par la foi un Dieu qui guérit. Est-ce que je serai guéri à tous les coups? Et si je ne suis pas guéri, est-ce que ça veut dire que rien n'est vrai? Non. On est toujours sur la terre. Quelquefois, je prie et je ne suis pas guéri. Hein. Je vais le dire. C'est pas honte de le dire. Mais je prie quand même. Et est-ce que je suis guéri quelquefois? Oui. Oui, parce que c'est une perspective de guérison qu'il faut faire. Il ne faut pas juste analyser chaque coup, mais il faut que ta vie chrétienne soit dans une perspective de qui est Dieu, attaché à ce morceau de bois tous les jours qui nous transforme, qui nous guérit. Et après, verset 27, c'est magnifique. Ils disent qu'ils arrivèrent où? À Élim. À Élim, c'est encore une oasis, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il y avait un peu le fruit, et je dirais toute cette effusion de l'eau, c'était magnifique. Et ils disent, ils campèrent là, près de l'eau. Et donc, à la rentrée, cette année, vous voulez camper où? Je ne sais pas si vous avez fait du camping pendant les vacances, mais on veut un bon placement souvent, un bon emplacement. On n'en veut pas un emplacement à côté des toilettes, hein, quand tout le monde claque la porte, ou les gens râlent, oh, je ne veux pas être à côté des toilettes. Moi, je veux avec une belle vue, avec la tranquillité. Et donc, vous voulez quel emplacement cette année? Vous voulez l'emplacement Mara? Allez, je vais camper à Mara, je vais installer mes tentes à Mara. Je vais rester là en train de murmurer, de boire l'amertume. Allez, mais choisissez votre emplacement. Choisissez là où vous voulez camper. Mais moi, je veux camper cette année près d'Élim. Je veux quitter Mara. Je veux jeter ce bois. Je veux saisir la croix. Je veux être transformé. Je veux dire, mais transforme-moi. Rends-moi plus doux, Seigneur, surtout mon cœur. Mais je veux vivre à Élim, là où il y a de l'eau pure, et là où il y a le fruit, et là où il y a la célébration. Et je veux dire, mais Seigneur, pardonne ton église, parce que quelquefois elle est tellement Mara. Pardonne-moi, Seigneur, parce que quelquefois dans ma famille, je suis tellement Mara, et je veux être Élim. Et donc, transforme-moi. Je veux saisir ce morceau de bois, jette-le dans mon cœur, et que je puisse camper toute cette année près d'Élim. Et finalement, c'est notre choix. C'est par la foi que nous pouvons vivre ces choses. Et donc, j'aimerais terminer en priant pour vous, hein, d'accord? Et je vais prier deux prières. La première prière, c'est que ce matin, peut-être vous voulez saisir ce morceau de bois. Et vous voulez l'appliquer à votre cœur. Et voilà, je veux être transformé. Et donc ça, c'est ma première prière. D'accord? Après, je ferai une deuxième. Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, je suis arrivé à Mara, je suis déçu. Seigneur, je suis déçu. Et j'ai envie de murmurer. Mais ce matin, Seigneur, je crie à toi. Et comme tu as montré à Moïse, tu me montres ce matin ta croix, ce morceau de bois. Et je veux saisir de nouveau ta croix. Je veux saisir cette croix. Et je veux le jeter dans mon cœur, dans mes circonstances, Seigneur. Et que tu transformes mon attitude. Que tu transformes ma vie maintenant, Seigneur. Que tu transformes tout autour de moi par cette victoire de la croix, Seigneur. Seigneur, je remets mon sort entre tes mains, Seigneur. Je te fais confiance. Seigneur, tu as vaincu l'accusation. Tu as vaincu l'ennemi. Brise toute emprise spirituelle sur ma vie. Au nom de Jésus, par cette croix qui a gagné ma victoire, j'élève cette croix. J'élève ce morceau, j'élève le morceau de bois dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus, amen. Et la deuxième prière pour terminer, et comme la prière de bénédiction aussi, c'est de rester à Élim. On va prendre notre tente, tout notre sac de camping, et dire voilà, non, je ne veux pas cet emplacement-là. Et là, je ne veux pas être à Mara. Je veux changer là, je veux mettre mes piquets à Élim. Et donc, en tant qu'église, on va aller à Élim, là où il y a l'abondance, là où il y a la victoire, là où il y a l'eau, là où il y a le fruit. Vous êtes d'accord? On fait ça individuellement, mais ensemble. Seigneur, que source de vie puisse être 12 sources de vie et 70 palmiers, Seigneur. Alléluia. Seigneur, cette année, Seigneur, je veux aller à Élim, Seigneur. Comme le peuple de Dieu, je veux camper près d'Élim. Et ce matin, je choisis mon emplacement. Seigneur, je choisis mon emplacement et je choisis de résider à Élim, Seigneur. À cet endroit, là où il y a ton esprit, là où il y a le fruit de ta parole, de ta personne, Jésus. Je veux vivre près de toi. Je veux vivre près de toi, Jésus, cette année. Et aide-nous en tant qu'Église, Seigneur. Nous proclamons ensemble que nous voulons résider à Élim. Nous voulons camper à Élim. Et quand les gens viennent ici, Seigneur, qu'ils rencontrent des sources d'eau et de fruits, oh Seigneur, merci. Merci. Nourris-nous cette année. Bénis-nous, Seigneur. Et je veux proclamer sur chaque personne ici la bénédiction d'Élim sur leur vie ce matin. La bénédiction d'Élim au nom du Père, au nom du Fils et du nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Alléluia.